Jesus Christus.
Fuir la tentation des histoires destructrices, mais racontées pour trouver du sens en cette journée où est fêté Saint François de Sales, le patron des journalistes. Nous reviendrons sur le message du pape François à l'occasion de la prochaine journée mondiale des communications sociales. Le confinement et l'inquiétude grandissent en Chine face à la propagation du coronavirus. Déjà plus de 800 personnes sont affectées et de nombreux sites touristiques en Chine sont désormais fermés par mesure de prévention. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. À la une de ce journal également, ces nouvelles manifestations ce matin dans les rues de Bagdad à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr. Manifestation contre la présence américaine dans le pays. Et puis nous entendrons Mgr Pascal Gollnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. Il est passé au Vatican la semaine passée pour l'Assemblée de la Roaco et nous parlera de l'aspiration des chrétiens dans un Moyen-Orient secoué par de nombreuses crises.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour à tous. La journée mondiale des communications sociales est célébrée chaque année le dimanche suivant l'Ascension. Et chaque année, c'est le 24 janvier, fête de Saint François de Sales, saint patron des journalistes, que le pape délivre un message pour cette journée. Pour cette édition 2020, il tire une partie de son titre du livre de l'Exode. « Afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils, la vie se fait histoire. Racontez donc pour trouver du sens. » Fuir la tentation des histoires destructrices, c'est l'invitation donnée aujourd'hui par le Saint-Père, les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Les histoires peuvent nous aider à comprendre et à dire qui nous sommes, car l'homme est un narrateur qui a besoin de se revêtir d'histoires pour protéger sa vie. C'est ce que souligne le pape dans son message. Le récit que promeut François doit parler de nous et de la beauté qui nous habite, aider à retrouver les racines et la force d'aller de l'avant ensemble. Nous avons besoin de respirer la vérité des bons récits, souligne le Saint-Père. Une recommandation qui ne s'adresse pas simplement aux journalistes, à l'heure où les histoires fausses et mauvaises inondent les réseaux sociaux. François pointe l'avidité des tapages et des commérages, et aussi ces histoires qui nous intoxiquent, selon lesquelles, pour être heureux, nous aurions constamment besoin d'avoir, de posséder, de consommer. Face à ces dangers, le pape mentionne un type de narration beaucoup plus profond, celle qui fait mémoire de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. D'où cette invitation à scruter le récit des récits, l'écriture sainte, la grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Le Christ nous l'assure. Pour lui, il n'y a pas d'histoires humaines insignifiantes ou petites. Personne n'est un figurant sur la scène mondiale et l'histoire de chacun est ouverte à un possible changement, écrit François. Un exemple à suivre pour nos propres récits, laisser place à la rédemption et avec l'aide de Marie, édifier des histoires de paix, des histoires d'avenir.
Adélaïde Patrignani. Toujours dans l'actualité vaticane, la Congrégation pour les causes des saints a publié ce vendredi de nouveaux décrets. Ils reconnaissent notamment le martyr de plusieurs fidèles lors de la guerre civile au Guatemala. Un décret reconnaît également les vertus héroïques du père Antoine-Marie de Lavore, un prêtre capucin mort en 1907, surnommé le Saint de Toulouse. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, le confinement et l'inquiétude qui augmentent en Chine alors que le coronavirus se propage. Plus de 800 personnes ont déjà été infectées et 26 autres sont mortes. Les autorités chinoises qui prennent des mesures drastiques pour contrôler la diffusion de ce virus dont l'origine est toujours inconnue, a commencé par l'annulation des festivités prévues pour le changement d'année chinoise. Philippe Dova.
Au grand mot, les grands remèdes, et en annulant les cérémonies prévues pour célébrer l'entrée dans l'année du rat, Pékin a décidé de frapper fort. Symboliquement, c'est un peu comme si en France le défilé et les festivités du 14 juillet étaient annulés. Les fêtes traditionnelles et les vacances du Nouvel An sont l'unique moment de l'année où les Chinois peuvent se retrouver en famille dans leur ville natale respective. Un moment sacré et ces annulations illustrent bien l'extrême gravité de la situation. Aucune ville n'échappe à la règle, à commencer par la capitale, la cité interdite, les tombe-bombing, les pagodes, les stades, sans oublier la Grande Muraille. En fait, ce sont tous les sites touristiques qui chaque année attirent des millions de citoyens qui seront fermés à partir de demain. Les consignes du gouvernement sont on ne peut plus claires, éviter les endroits surpeuplés pour lutter contre l'épidémie. À Wuhan et dans 6 villes voisines, ce sont 40 millions de personnes qui sont dorénavant coupées du monde. Des villes où règne une ambiance d'apocalypse, tous les magasins sont fermés, les transports en commun arrêtés, les rues désertes et pour les rares personnes qui s'y aventurent, le port du masque est obligatoire sous peine d'amende. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Et la Chine qui a engagé aujourd'hui la construction d'un hôpital à Wuhan, là où est apparu le virus. Hôpital destiné à accueillir d'ici 10 jours seulement un millier de patients exclusivement malades de cette pneumonie virale. Les travaux doivent être achevés en un temps record. L'hôpital de 25 000 m² qui doit ouvrir ses portes le 3 février. Juan Guaido, à Paris, le président du Parlement vénézuélien et opposant numéro 1 à Nicolas Maduro, doit être reçu cet après-midi par Emmanuel Macron à l'Elysée. Soutenu par les États-Unis et une partie de la communauté internationale, Guaido est en Europe pour demander de l'aide alors que son pays traverse une très grave crise politique et économique. « Seuls nous n'y arriverons pas », a-t-il affirmé hier au Forum économique mondial de Davos. Direction à présent l'Irak où des manifestations importantes ont de nouveau lieu. Ce vendredi, de nouveau, ils sont des milliers dans les rues de la capitale irakienne à être descendus à l'appel de Moqtada Sadr. Les partisans du puissant leader chiite demandent l'expulsion des troupes américaines d'Irak. Un rassemblement bien distinct des manifestations anti-gouvernementales qui ont lieu depuis des mois dans le pays, Delphine Allaire.
Oui, Olivier, il est cette fois-ci résolument anti-américain, organisé sous la houlette de Moqtada Sadr, très influent leader chiite, qui mobilise ses troupes à Sadr City, une ville pauvre de 4 millions d'habitants à l'est de Bagdad. Trois points de revendication, le retrait des forces américaines, l'annulation des accords sécuritaires entre Bagdad et Washington et la fermeture de l'espace aérien irakien aux avions militaires américains. Ces manifestations interviennent quelques semaines après la frappe américaine qui a tué le général iranien Soleimani et le commandant irakien Al-Mouhandis. Une frappe qui a ravivé donc le sentiment américain dans les cercles sadristes. Pour l'heure encore, les sadristes qui préfèrent la voie politique à la voie militaire. Les Américains sont notre plus grand ennemi, pointe le chef du conseil des tribus de Sadr City. Tout Irakien honorable devrait demander leur départ, ajoute-t-il. Les sadristes donc qui comptent bien faire pression sur le gouvernement pour obtenir le départ de toute force étrangère.
Merci Delphine Allaire. Et les manifestations qui se poursuivent au Liban également. Malgré la nomination d'un nouveau gouvernement mardi dernier, de nombreux Libanais ne décolèrent toujours pas et s'inquiètent notamment de la grave crise économique qui touche le pays. Hier, la France a exhorté le nouveau Premier ministre Hassan Diab à prendre des mesures d'urgence à même de rétablir la confiance. Dans les manifestations, que ce soit en Irak, au Liban ou dans d'autres pays, les chrétiens sont présents comme leurs concitoyens. Dans un Moyen-Orient toujours plus en ébullition entre crise irakienne, libanaise, guerre en Syrie ou tension entre l'Iran et les États-Unis, le sort de ces chrétiens d'Orient est de nouveau posé, tout comme la place qu'ils jouent dans leurs sociétés respectives. Venu à Rome à l'occasion de la réunion de la ROACO la semaine passée, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient, revient sur les attentes de ces communautés chrétiennes qu'il connaît bien, des chrétiens qui ont célébré la nativité avec des sentiments contrastés.
Dans l'ensemble, ils ont été tiraillés entre espoir et désespérance. Désespérance parce que les situations sont très lourdes dans les différents pays du Moyen-Orient, spécialement les chrétiens qui ont parfois la double peine puisqu'il y a des discriminations vis-à-vis d'eux. Ça, c'est pour la désespérance. Espoir d'abord parce qu'ils ont la foi, mais aussi parce qu'il y a des mouvements dans ces pays qui montrent quand même que la population souhaite des changements, souhaite des progrès. Qui aurait dit il y a quelques mois qu'on verrait des gens descendre dans la rue en Iran, en Irak, au Liban, et puis pour sortir de la zone du Proche-Orient, au Soudan, en Algérie. Tout cela montre quand même que la population n'est pas accablée. Elle veut que les pays progressent, et de ces progressions, les chrétiens sont tout à la fois des acteurs et en même temps peuvent être les bénéficiaires d'une avancée de leur pays. Aucun pays n'est destiné à être par nature dans un régime d'injustice ou de dictature ou autre.
Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. Il y a tout juste un an, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi était investi après de longues semaines de tensions politiques liées au vote. Un an après son arrivée au pouvoir, les défis sont encore immenses pour le plus grand pays d'Afrique qui a souhaité tourner la page des années Kabila. L'un des points noirs du pays reste la situation dans le Nord Kivu où la violence des groupes armés est encore quotidienne. Et puis la Guinée est toujours en attente d'une date pour un référendum constitutionnel. Le président Alpha Condé devrait bientôt annoncer cette date qui pourrait être aussi couplée avec l'annonce d'élections législatives. L'annonce de ce référendum pourrait accroître des tensions déjà très vives dans le pays de 13 millions d'habitants. La Guinée qui est depuis le mois d'octobre le théâtre de vives protestations contre le projet prêté de longue date au président Condé de chercher à se succéder à la fin de cette année 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra ce soir à 18h. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver. Bel après-midi à tous.